Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Comment s'est donc passé mon Gravelman Paris-Deauville? Eh ben, je vous raconte ça tout de suite. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Comment débuter le cyclisme à 46 ans? Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end? Telle est l'aventure que je vous raconte d'épisode en épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier. Quelques années, je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire, repris le sport, débuté la course. J'ai perdu 27 kilos pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours. Mais le vélo, je dois bien le dire, à l'origine, ce n'est pas vraiment mon sport. Mais ça va le devenir. Et je voulais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier Gravelman. Et c'est ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant dans tous les épisodes de ce podcast. Et ce week-end, c'était le grand week-end, l'objectif de l'année, l'objectif de ce podcast que je vous raconte dans ce podcast. Mes pensées, mon énergie, tout était dirigé depuis des mois et des mois vers ce week-end, le week-end passé. Le week-end du Gravelman du Paris-Deauville, du 1er au 3 septembre. Voilà, c'était le grand moment, Paris-Deauville, Trace Gravel, 351 km. Alors, comment ça s'est passé? Bon, déjà, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, il n'y a pas vraiment de suspense, je n'ai pas réussi à suivre la trace complète. Non, je ne suis pas Gravelman complet, etc. Non, je n'ai pas réussi mon défi. Est-ce que je ne suis pas pour autant champion du monde de mon monde? Si, je vous le garantis quand même, et je vais vous expliquer pourquoi. Non, je n'ai pas réussi la trace complète, je le dis, mais je suis quand même arrivé à Deauville. Et c'est ce que je vais vous raconter, comment j'ai fait pour arriver à Deauville. Je vais vous raconter tout ça, du départ à 5h le matin à Paris, comme ça, le vendredi matin, nous sommes retrouvés à Paris, là, comme ça. Chacun un peu confiant, on avait tous un peu peur les uns les autres, etc. Alors, il y avait ceux qui partaient par la route, ceux qui partaient par la trace gravel. Avec le petit briefing de Steven Leyaric, qui nous a concocté la trace, qui nous a dit un truc, ça va être difficile. Voilà, Steven annonce que c'est peut-être la trace gravel la plus difficile de l'année. Alors déjà que moi, je trouvais que la trace Auvergne avait été quand même assez compliquée. Pas très technique, selon lui, mais c'est long et difficile. Et puis, il nous a dit, attention, la pente, 25%, il y a une descente à Évreux en descente. 25%, méfiez-vous, parce que si vous ratez, vous arrivez tout en bas. Bon, voilà, on était prévenus. Donc, on avait 50 heures pour faire 351 km. Et pour une fois, il n'y a pas fait du rajouter 10, 15, et juste un petit kilomètre de plus. Et donc, nous voilà partis autour de 6 heures du matin dans les rues de Paris. J'ai dit par 5 heures parce qu'en fait, c'était 5 heures pour moi le temps que je rejoigne le départ. Comme ça, dans les rues de Paris, calme, il n'y avait personne, que je récupère le matériel, la balise, que je mette ma petite gapette, que je mette le casque, les lumières, enfin tout ça. Et on est parti à 6 heures. On roule dans les rues, tout va bien. Alors, au départ, franchement, il n'y a pas beaucoup de chemin dans Paris. Donc forcément, c'est la route, donc la moyenne est assez élevée. Et puis, on finit par basculer sur les chemins. Et là, d'un coup, moi, je fais une grande découverte. C'est que l'Île-de-France est très rurale et très vallonnée. Oui, très rurale et vallonnée. Et puis aussi, bien mouillée et puis bien boueuse aussi. Tiens, moi, j'avais pas cette vision-là de l'Île-de-France. Moi, l'Île-de-France, c'était la grande ville, des bâtiments, etc. Là, d'un coup, je me retrouve dans une Île-de-France qui sent la vache, qui sent la bouse, qui sent tout ce qu'on veut, avec de la terre. Ça devient un petit peu galère. Et dans une descente bien boueuse en forêt, et voilà qu'arrive le premier événement pour moi. Alors déjà, je me perds. Il y a un virage. J'aurais bien aimé aller tout droit dans cette descente-là, mais il y avait un espèce de virage avec une grosse ornière. Je me suis dit, non, on va quand même pas aller là-dedans. J'ai continué un petit peu plus loin et puis j'ai vu d'autres gens qui étaient tout en bas. Je me suis dit, oh, mince, j'ai raté. Effectivement, sur le GPS, j'avais raté le virage. Et donc là, il y avait une grande descente. Alors, je m'en rends compte, je ralentis, je m'arrête. Mon vélo glisse un petit peu, etc. Et en repartant, en fait, je me suis pas rendu compte, j'ai perdu mon multi-tool. Vous savez, petit outil avec plein de petits outils de trucs dessus. Hop, perdu. Bon, c'est pas très cher, mais je me suis dit, si jamais j'en ai besoin plus tard, ça risque de me manquer. Je repars et je commence à prendre la grande descente un petit peu tout doucement parce qu'il y a des grosses ornières, de la boue, etc. Et que je me suis dit, ça, c'est un coup à faire un grand soleil. Mais en fait, j'entends un gros crac, un truc crac, comme ça, un truc, voilà, un gros crac. Et un drôle de bruit ensuite, ça faisait tic, 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 comme un truc, comme si j'avais une branche qui était coincée dans ma roue. Bon, bah finalement, c'était pas une branche, c'était un rayon, voilà, un rayon de ma roue arrière, qui était juste à l'horizontale au départ, hein, voilà, il partait un peu, donc ça tapait. Donc je me suis arrêté en bas de la fameuse descente, j'ai regardé ça, je me suis dit, comment faire? Il y a un concurrent qui arrivait derrière qui m'a dit, ça va? Je dis, oui, mon rayon est cassé. Il me dit, t'as du gros scotch? Je dis, bah non, j'ai pas de gros scotch. Il me dit, bah tu peux peut-être essayer de l'enrouler sur le long du rayon. Donc voilà, je dis, bah écoute, je vais essayer de faire ça. Donc effectivement, je me suis mis à essayer de tordre mon rayon pour l'enrouler autour d'un autre rayon et commencer à rouler. Et donc j'ai commencé à rouler et là, à ce moment-là, en fait, je n'avais fait que 50 km à peine. J'étais juste avant Guerville. Guerville, c'est le premier point de passage obligatoire et c'est le point 50 km. Donc sur les 351 km à faire, déjà au kilomètre 50, première panne technique. Mon obsession à partir de ce moment-là, c'était de me dire, est-ce que je peux rouler comme ça? Alors, je me suis pas mis à chercher sur Internet, etc. Je me suis dit, de toute façon, je suis en plein milieu de la campagne, etc. Il n'y a pas de vélociste, pas très loin, pas très proche. Mais quand même, il y a un petit groupe WhatsApp, hein, qui va avec le Gravelman. Je dis quand même, il va falloir que je fasse réparer et tout. Et Steven, il dit, il y a 10 vélocistes hein, sur la trace, donc il y a quand même de quoi faire réparer. Donc je reprends la route, tout en cherchant un vélociste. Alors c'est là que je me suis mis à regarder un petit peu sur Google Maps en me disant, bah tiens, est-ce que pas très loin de là où je suis, par exemple, est-ce que là où j'étais là dans cette ville-là, est-ce qu'il y avait ça? Non. Bon bah j'ai continué. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un vélociste en fait à Passy-sur-Eure, c'est-à-dire au checkpoint 2. Bon, le problème c'est que t'es au kilomètre 105. Alors je sais pas si vous avez déjà roulé avec un rayon au moins, mais en fait ça paraît pas un rayon. Hein. C'est fin, c'est petit et tout, mais alors dès que vous enlevez un rayon sur votre roue, ben tout d'un coup, elle tourne pas rond, quoi, tout simplement. Elle se met à partir de droite et de gauche, etc. Et comme il y avait de la boue, de la terre, et ben petit à petit, en fait, elle frottait de plus en plus. Alors non pas contre le cadre, mais tout simplement contre la terre qui s'accumulait contre le cadre. Autrement dit, j'avais une roue qui tournait pas vraiment rond, qui frottait sur le côté, contre la terre, contre la boue. Je la regardais, je la voyais un petit peu, c'était fatigant, c'était usant, c'était stressant, disant, est-ce qu'il n'y en a pas un autre qui va casser? Qu'est-ce qui va se passer maintenant, etc. Donc, je suis arrivé tant bien que mal à Passy-sur-Eure. Ouais, déjà, kilomètre 105, il était autour de 13h30, 13h34, un truc comme ça. Et le magasin que j'avais repéré, le vélociste, était fermé. Bah oui, lui, il a attaqué qu'à 14h. Donc, je suis allé chercher à manger. Je me suis installé dans l'herbe devant le magasin en me disant, je serai le premier client. Comme ça, j'attendrai pas. Je mange, je fais donc réparer. Je discute avec le mécano qui me dit, bah, ce matin, on a réparé un autre vélo d'un client. Avant midi, il est arrivé. Bon, lui, on lui a changé ses deux pneus et on lui a changé ses freins aussi. Il avait tout démoli. Pourtant, on lui a refait il y a quelques jours, mais il avait tout démoli. Et tout explosé. Je dis, ouais, bah, sur les chemins, ça m'étonne pas. Hein, ils sont pas faciles, les chemins chez vous. Il me dit, bah oui, c'est sûr et tout. Il me dit, moi, je m'étais dit qu'un jour je ferais bien ce Gravelman Paris-Deauville et tout. Mais c'est un peu dur et tout, parce qu'en plus, ça suit le parcours GR, la trace VTT et tout. C'est plutôt une trace VTT. Mais vous allez voir, après, c'est plus roulant. Ah oui, c'est plus roulant. Bon, sur WhatsApp, en fait, Steven, lui, il annonçait que la fin était pire que le début. Alors, je me suis dit, entre celui qui dit que c'est plus roulant et Steven qui a fait la trace qui dit que la fin est plus terrible, je me suis dit, bon, sur quel pied danser? Bon, bah, en attendant, on a réparé comme ça. Enfin, il a réparé, il m'a changé le rayon, il a tout remis en place. Je repars, je fais 900 mètres, je m'arrête à un bar pour prendre de l'eau et à la petite boulangerie à côté pour prendre un petit gâteau. Et au moment de repartir, qu'est-ce que je constate? Mon pneu arrière est plat. Celui que je viens même de faire réparer ma roue arrière, dont je viens de changer le rayon, et donc je l'ai vu, il a vérifié la chambre, il a vérifié le pneu et tout, je suis à plat. Donc je retourne à la boutique. Et je lui dis, bah voilà, et tout. Il me dit, oui, mais le pneu, il est peut-être un peu usé. Peut-être que vous avez pris un petit truc. Et en fait, en cherchant, effectivement, j'ai pris un silex, qui n'en avait pas vu, qu'il ait pris un silex. Et, comme le pneu, bah, il y a quelques kilomètres, et bah, ça l'avait bien entaillé. Et donc, il m'a dit, bah, je pense que le meilleur moyen, quand même, vu ce qui vous attend derrière, ça serait de le changer. Je lui dis, bah, écoutez, on va le changer. Qu'est-ce que vous avez? Il dit, bah, je suis embêté quand même, hein. C'est que les pneus que vous avez, là, vos Touareg, bah, mon client de ce matin, il a pris les deux derniers. Et donc, il me reste que cela et tout. Donc, je vous garantis que le changement de pneu, il m'a coûté plus cher que ce que je pensais. On a changé la chambre à air en même temps. Il m'a refait la pression et tout. Et je repars finalement 2 heures après mon arrivée à Passy. Donc, moi, Passy, pour moi, dans mon idée, c'était de dire, je fais une pause. Alors, au départ, dans mon planning de départ, c'était de dire, une fois que j'arrive à Passy, je mange un peu, je reste une demi-heure et je m'en vais. Et au final, j'ai bien mangé, mais j'y suis resté plus de 2 heures et j'ai fait 2 réparations. Donc, autant dire que là, à ce moment-là, j'étais un petit peu chafouin. En repartant d'ailleurs, ça a fini de me chafouiner cette histoire. Il commence un petit peu à faire chaud. Alors que le matin, on avait eu froid, il y a eu de la pluie. plus et tout. Là, il commence à se réchauffer un peu. Je passe devant un petit magasin de glace fermé. Je me dis zut, mais zut de zut. Et après, je continue. Et une montée qui est raide et tout. D'ailleurs, je suis obligé de pousser le vélo. Et à l'arrivée de la montée, en haut, je vois un autre concurrent qui était lui à l'arrêt. Je me suis dit, tiens, il doit être en train de boire un coup. Ben non, en fait, c'est Cyril. Et Cyril, le problème, c'est qu'il n'a plus de GPS. Son GPS est tombé en panne. Alors, en plus, il me raconte qu'il disait entre ses camarades de jeu, qu'il disait, ah, mon GPS Garmin, il est génial et tout, j'ai jamais de problème avec. Et ben, en fait, son GPS est tombé en rade. Bon, c'est dommage, hein, parce que quand il reste quand même 250 ou 240 km, ouais, 250 km à faire. Sans GPS, avec une trace qui tourne à droite, qui tourne à gauche et sans arrêt, c'est pas facile. Donc il était en train de se poser la question de savoir ce qu'il faisait. Il avait pas réussi à suivre les autres qui étaient avec lui à ce moment-là, il les avait perdus petit à petit. Il avait appelé sa femme en se disant « je pense que j'ai abandonné, tu peux pas venir me chercher, comment je peux rentrer ?» Il était en train de calculer un petit peu comment, en fait, il pouvait rentrer chez lui tout simplement, hein, dans l'Oise, et puis il cherchait le truc. Et donc je lui dis bah moi de toute façon je peux te ramener, hein, moi mon GPS il marche pour l'instant, hein, il marche, hein, il est peut-être moins précis qu'un Garmin et tout, mais il marche. Donc je lui propose de me suivre jusqu'à Évreux, prochain point de passage, kilomètre 136. Donc je vous rappelle que pas 6, c'est kilomètre 105. Et on va au kilomètre 136, 31 km, hein, normalement ça se fait vite 31 km si vous prenez une route, 31 km, surtout si vous faites du vélo de route, vous savez que ça va très vite. Bah sur des chemins et des chemins concoctés par Steven Ulrich, et je me suis demandé si par moment d'ailleurs il n'avait pas rajouter des cailloux exprès. Alors, c'est passé relativement vite, hein, heureusement, parce qu'on a discuté. Il a crevé quand même, hein, malgré ses tubeless. À un moment, il y a eu un gros gyrose et tout, donc il a changé, il a mis les mèches, etc. et tout. On a pris la pluie, gros orage, on a bien discuté, etc. Mais franchement, on a avancé difficilement. C'est-à-dire qu'entre les montées, entre les caillasses, la boue et tout, la moyenne, si elle est entre 10 et 12 km heure, suivant le moment, c'est bien le maximum. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on aurait pu penser qu'on faisait environ en 1h30 par de la route, hein, une heure et demie par la, enfin, une grosse heure et demie par la route, on est plutôt, je dirais plutôt à 3h30, peut-être pas loin de 4h au final même, parce que par moment, il a fallu pousser, il y a eu les arrêts, etc. On descend la fameuse pente à 25%. Elle était belle, la fameuse pente. Moi, j'ai même fait une petite photo. Magnifique vue sur Évreux. Et on arrive à Évreux vers 18h30 dans cette zone-là, etc. Hein, voilà, j'ai pas fait mes calculs, tout. Je sais juste que c'était le moment de l'apéro, qu'on s'est arrêté à une boulangerie, que j'ai plaisanté avec la boulangère en lui disant que je faisais le tour de France des meilleures boulangeries, que j'espérais que leur flan était le meilleur. Je vous garantis, c'est pas le meilleur flan de, il est pas dans les catégories des top flans et tout. Je lui ai dit, mais ça a bien fait rigoler Cyril sur l'histoire. Je vais expliquer un peu l'histoire, mon voyage vélo. On a mangé tranquillement devant, je crois, c'est autour d'une cathédrale. Je sais pas ce qu'il y a trop à Évreux. On a fait une petite photo. Et puis, on a discuté des plans. Son plan, lui, au départ, c'était de dormir à Bernay, au kilomètre 208, d'avoir un hôtel là-bas. C'est là-bas qu'il avait prévu de dormir avec un hôtel et tout. Et puis, on s'est dit, ouais, le kilomètre 208, bon, il reste du chemin quand même. On est au kilomètre 136. C'était le mien aussi, quand même, d'aller au kilomètre 208. Sauf que là, c'est 19h, en fait, hein. Et donc, tant bien que mal, sur mon plan d'attaque, j'ai 3h de retard, peut-être 4h de retard dans cette zone-là. On se dit qu'on pourrait peut-être aller jusqu'à Neubourg, hein, kilomètre 170, en disant, bah tiens, peut-être qu'il y a des hôtels. Il commence à regarder s'il y a des hôtels. Et puis, d'un coup, il dit, ouais, ça fait 34 km. Ouais, 34 km, ça fait pas tant que ça. En fait, ça devrait pas nous faire peur, 34 km. Mais on sait qu'à cette allure-là, ça peut prendre plus longtemps. Et il me dit un truc, il me dit du style, alors, si c'est 34 km, comme on fait normalement, ça va vite. Si c'est 34 km, comme on est obligé de faire là, maintenant, et on y est super tard ce soir. Et donc, à ce moment-là, en fait, il a pesé le pour et le contre. Il a eu un message de sa fille qui n'était pas très loin, qui travaillait pas très très loin, qui a dit « je peux venir te chercher ». Et en fait, il a décidé d'abandonner, d'aller à Deauville, ramener la balise GPS à Deauville en voiture. Et puis, bah, il m'a laissé comme petit cadeau, en fait, sa petite carte imprimée et plastifiée dans laquelle il avait imprimé tout le plan avec les petits kilométrages, etc. J'ai mis ça dans ma poche et je suis reparti seul. Voilà, seul. Alors seul, vous comprenez bien qu'à 19h à cette époque-là, le soleil se couche autour de 19h30, après le nuit commence à tomber. À la sortie d'Évreux, je me suis planté, en plus j'ai tourné en rond à un moment donné, mais j'ai appris que j'étais pas le seul. Un petit pont que j'ai loupé, petit pont, voilà. Et, au lieu de prendre le petit pont, je suis resté d'un côté, donc ça m'a fait tourner en rond, je suis revenu, hop, et j'ai dit, ah bah tiens, peut-être que je prendrai le petit pont, et là je suis reparti dans le bon sens. J'ai essayé d'avancer au max au coucher du soleil, et je suis rentré dans la forêt quand la nuit est arrivée. Et là d'un coup, qu'est-ce que j'ai entendu? Des craquements, des chouettes, des bruit en tout genre, des ouh, 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 tout. Bon, il n'y a pas le loup, hein, heureusement. Des chemins forestiers, surtout très défoncés. Alors, comme tout le reste de la journée, des chemins défoncés, mais vraiment défoncés. En fait, partout où on est passé, il y avait des trucs marqués, travaux forestiers, attention, ne montez pas aux arbres, etc. et tout. Attention à ci, attention à ça et autres. Et en fait, c'est comme s'il y avait des gros camions ou des gros tracteurs qui devaient passer dans ces chemins. Ça faisait des trous, des ornières. Mais alors, des fois, dans des chemins, il y en avait qui étaient, au départ, par endroit, on est passé. Il y en avait, elles faisaient moins 50 centimètres de profondeur, voire plus 80 centimètres. Il y en a une même, ouais, je pense que la moitié du vélo pouvait le mettre dedans. Et ben, avec la pluie qui tombait, ces ornières étaient devenues des piscines, des piscines. Le problème, en fait, c'est que quand vous êtes de nuit à la frontale, que vous connaissez pas le chemin et que vous voyez une piscine devant vous, elle fait quelle taille la piscine? Est-ce que c'est une piscine dans laquelle vous avez 10 cm d'eau, 20 cm d'eau, 50 cm? Est-ce que vous allez vous noyer dans la piscine ou pas? Ben, vous savez pas trop. Alors, une fois sur deux, la roue arrière qui glissait, deux fois devant, je passais assez doucement en me disant, et j'étais tout seul en plus hein, dans cette nuit-là, en disant bon, est-ce que là ça va passer? J'avais pas de repère de me dire bah tiens, l'autre devant il a fait un soleil dans la piscine, hein, je sais pas. Donc un peu de méfiance quand même dans mon histoire, donc je me suis quand même bien méfié et tout. Et puis c'était galère, ça glissait dans tous les sens, la roue était coincée, j'avais des feuilles, de la boue, j'étais obligé d'enlever avec des petits d'enlever la terre comme je pouvais et tout. Et en fait à un moment je me dis bon, je vais aller plus vite en marchant. Et donc c'est même à ce moment-là d'ailleurs j'ai commencé à mettre le chrono, je me suis dit je vais courir à côté du vélo, ça me fera ma séance de course de ma journée. Et ben en fait j'ai fait 5 km/h de moyenne sur une heure. Pendant, j'ai mis une heure pour sortir de 5 km dans lequel je traversais sans arrêt des grosses flaques, de la forêt, des trucs à porter le vélo parce qu'il y avait des branches autour, etc. Bref, une belle galère. En plus, il pleuvait, mais il faisait chaud quand même dans la forêt parce que c'est la forêt, ça tient chaud. Vous vous rendez peut-être pas compte si vous l'avez jamais vu. Cet été, j'avais dormi dans une forêt, j'avais eu chaud alors qu'il pleuvait, qu'il y avait la tempête, mais la forêt, ça tient chaud. Et là, bon, il y avait pas trop de pluie qui tombait, ça tenait un petit peu chaud, puis il poussait le vélo et puis ces fameuses flaques. Les chaussures pleines de boue, de terre, etc. Elles se trempaient, tout, bah, vraiment. Je me suis dit, bah, vivement que ça se termine. Et quand ça s'est terminé, j'étais, ah, ça doit être cool. On doit arriver vers le Neubourg, tranquillement. Et en fait, à la sortie de la forêt, je voyais des lumières, je voyais des routes. Je me suis dit, ah, bah, tiens, il y a une route, une petite route, une grande route. Et en fait, ça alternait les petites routes, les chemins agricoles. Alors, la lune était belle. Il y a quelques nuages, mais on était peut-être pas loin de la pleine lune, quand même. Il y avait aussi de la pluie. Et puis, c'est mis à faire de la brume. Carrément. À un moment donné, avec la frontale, vous savez, il y avait un brouillard et tout. Je me suis dit, waouh, maintenant, j'ai la brume, etc. Et en fait, c'était interminable. Je le dis très clairement. C'était totalement interminable. Et à un moment donné, je suis arrivé dans une ville. Alors je sais plus le nom de la ville, il y avait un panneau de la ville, mais en tout cas c'était pas le panneau, le Neubourg. Et donc j'arrive dans la ville et je dis tiens, c'est une belle ville quand même, elle est grande cette ville et tout, c'est cool. Je passe devant un office de tourisme, je vois un bel office de tourisme, ça ressemblait en fait à une ancienne gare avec des abris. Bah vous savez qu'une gare, il y a un abri à l'arrière où passaient les rails. Et ben bah, ça ressemblait en fait, il y avait des abris derrière, des abris devant, il y a des petites tables. Je me suis dit tiens, ça serait cool ici, ça aurait été un bon endroit pour manger, pour dormir. Mais bon, je suis pas le Neubourg. Moi le Neubourg, c'était à peu près 50% du parcours, je voudrais bien faire 50% du parcours. Tant pis, je ne m'arrête pas, je veux au moins faire 50% du parcours. Et donc, je me mets à filer à travers la ville, je me dis, ah bah tiens, c'est cool, je peux rouler, enfin, je dépasse les 15 ou 20 km heure, je peux à nouveau rouler un petit peu plus, je peux enfin un petit peu appuyer sur les pédales, je peux même passer le grand plateau. Attention, c'était peut-être la première fois de la journée, je pouvais vraiment pas, en dehors du départ, tout début, on a pu rouler un peu, je peux passer enfin le grand plateau, je commence à accélérer en pleine nuit avec la frontale, le phare devant et tout, je roule, je me dis, à cette allure-là, allez, dans le Neubourg, j'y suis dans 5 minutes, jusqu'au moment où en fait j'arrive à la sortie de la ville et je vois un panneau, le Neubourg barré. Et bah oui, en fait, c'était le panneau de sortie de le Neubourg. Et là, je me suis dit, mince, j'ai pas fait ma photo de check-in. Et où est le point suivant? Où est le point suivant? Le point suivant, c'est Bernay. Alors, le problème de Bernay, c'est que c'était un petit peu loin, Bernay, quand même. Il restait un bon paquet de kilomètres à faire pour arriver au point suivant. Et surtout, la grande question, c'était de savoir, est-ce que entre Le Neubourg et Bernay, il y avait beaucoup de villages, des endroits pour m'arrêter? Est-ce que je serais obligé de dormir dans la forêt ou est-ce que je trouverais un petit banc, des choses comme ça? Enfin, voilà, c'était la grande question. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire demi-tour, faire une photo quand même dans Le Neubourg pour dire que je suis passé par là. Et puis là, je suis passé devant une petite pizzeria. Ah, je suis passé devant une petite pizzeria. Ils sont en train de fermer, ils sont en train de faire le ménage. Je suis rentré, je leur ai demandé, vous savez encore quelque chose? Et ils m'ont dit, vous inquiétez pas et tout. Ils ont rallumé le four. Il m'a ressorti j'ai pris une pizza avec de la mozzarella, du jambon, de la crème et tout. Il m'a ressorti tous les trucs. On a discuté un petit peu. Il m'a dit d'ailleurs que l'an dernier, il y avait eu un groupe qui avait fait le Paris-Deauville, qui était frigorifié. C'était 7. Ils étaient obligés de fermer la pizzeria pour les réchauffer, pour arriver à leur tenir très chaud et tout, etc. Donc, je suis reparti avec une pizza et à boire. Et je leur ai demandé, je leur ai dit, oh, j'ai vu qu'il y avait l'office de tourisme assez loin. Il me dit, bah non, c'est 5 minutes et tout. Et je dis, c'est safe de dormir là-bas? Il me dit, ah oui, ici, c'est une petite ville tranquille et tout, on est cool, hein. Là, vous n'allez pas être dérangé. Donc je me suis dit, je retourne là-bas, tranquillement, je m'installe à une table, je mange, et là je prends mon téléphone, je regarde le suivi live avec les positions GPS des autres, je regarde aussi ce qui se passe sur le groupe WhatsApp. Alors je me suis rendu compte qu'en fait il y en avait beaucoup qui avaient mangé à Lunebourg mais qui étaient repartis, d'autres sont à l'hôtel, donc j'avais des points de passage qui n'étaient pas très loin, j'avais des petites billes qui indiquaient qu'ils étaient là avec leur base GPS, certains étaient à 500 mètres mais dans des hôtels, et puis j'avais deux petits points qui bougeaient encore sur la carte là, et je les voyais se rapprocher ces petits points, je me suis dit tiens, j'aurai de la compagnie dans pas longtemps. Et donc, le temps de manger ma pizza, j'avais coupé une grosse pizza quand même. Vers minuit 30, voici qu'arrivent deux cyclistes, Anselme et Ronan. Et j'ai cru qu'ils allaient me rater, je m'étais mis sur le bord de la route et puis ils ont pris un petit chemin sur le côté. Et donc, je leur dis salut, ça va et tout, on commence à discuter. Et je leur dis, bah moi je vais dormir là. Je leur montre la brise, je leur dis, il y a un endroit à la brise. Je dis, bah ouais, il y a ce truc là. Et effectivement, c'est Miba, ce qui devait être l'ancien quai de la gare, je pense, tout simplement. Donc on s'installe ici tous les trois. Eux, ils avaient matelas gonflables et couvertures de survie. Voilà, que ça. Moi, j'avais pas de... matelas gonflables, c'était peut-être une bonne idée, d'ailleurs, dans leur truc à retenir. Moi, j'avais mon sac de couchage, couverture de survie que j'ai mis par-dessus, et en plus, qui protège alors du froid, mais aussi de l'humidité, parce que le matin, elle était pleine d'humidité. Et puis, finalement, je dormais directement sur le sol. J'ai pas trouvé d'herbe sèche, etc. Et c'est là où je me suis dit, ouais, le matelas gonflable devait être confortable, parce que matelas gonflable plus mon sac de couchage, j'aurais sûrement très bien dormi. Je vous rappelle quand même que je me trimballe avec un hamac et que le hamac, je ne l'ai pas, je l'avais expliqué, et je vous l'expliquerai aussi sur mon Wesh Vélo de cet été quand je ferai un épisode sur le sujet, mais le hamac, en fait, je ne l'ai pas utilisé. Voilà, je l'ai trimballé pour rien cette fois-ci. Il n'y avait pas d'arbre dans le Neubourg, et en fait, il n'y avait pas d'arbre à l'abri, donc s'il pleuvait et tout, c'était pas à l'abri, donc finalement, et puis c'est des poteaux comme une gare, mais sans, il n'y avait pas de poteaux en fait, donc je ne pouvais pas mettre un hamac. Bref. J'ai dormi par terre et la nuit en fait c'est pas si mal passé que ça, même s'il y a eu quelques réveils, puis bon, dormir par terre c'est pas toujours très confortable, etc. Et puis des fois il y a un petit bruit de mobilette, mais pas trop finalement. Et puis à un moment donné quand même je me suis réveillé, je les ai entendus discuter. Alors je pense, oui c'est Ronan qui dit « Ah, demain je repars pas, je suis cuit, j'en ai marre, j'ai mal partout et tout, puis je te ralentis. » Et Anselme a dû lui répondre un truc du style « ta gueule ». Et dort. Au petit matin, moi, je me suis réveillé par quelques bruits vers 5h. En fait, il y avait un car sur le parking avec des voyageurs qui partaient en voyage, je sais pas où. Donc, il y avait plein de gens qui arrivaient avec leurs valises, ça faisait un petit peu de bruit. Un gars, peut-être le chauffeur de bus, qui est venu pisser, mais à quelques mètres de nous, et qui a dit, ça va, vous avez pas de problème, les gars? Non, ben, écoute, ça serait bien que tu ranges d'abord ton attirail avant de te retourner. Il y avait de la brume, voilà. Le soleil n'était pas levé, donc je me suis dit, et puis on avait discuté, la veille, on a dit, oh, si on met le réveil, ça sera autour de 6h et quelques pour repartir au lever du soleil, rouler assez tôt comme ça. Donc moi, en fait, autour de 5h, j'étais réveillé, donc j'ai commencé à faire mon petit porridge, j'ai sorti mon petit réchaud, j'avais de l'eau, j'ai sorti mes petits flocons d'avoine que j'ai amenés, je m'étais fait un petit porridge avec des petits fruits secs, des bananes séchées et tout dedans, super bon, franchement super bon. Je me suis fait aussi un petit café, qui est un petit peu raté lui, ce truc-là, parce que avec les yeux à moitié ouverts, j'ai oublié de fermer un truc de la cafetière. Mais en tout cas, ça m'a bien réchauffé, c'était cool. Eux, ils ont prévu d'aller à la boulangerie, je recharge le vélo, ils rechargent le vélo. Et puis, au moment de repartir, je m'aperçois que ma roue avant est à plat. Et le pire, c'est que dans la nuit, je pense en avoir rêvé. Ou alors, j'ai entendu un shit. Ou alors, vous savez, cette odeur caractéristique des chambres, de l'air qui sort d'une chambre à air et qui sent l'œuf pourri, là. Il y a un truc qui... Mais le matin, en fait, j'ai pas vérifié. J'aurais dû vérifier, parce que sinon, j'aurais eu le temps de changer ma roue. Avant, en faisant mon porridge, tranquillement. Mais alors, eux, ils sont partis à la boulangerie. Moi, j'ai tenté de regonfler, voir si ça suffisait, parce qu'Anselme me dit oui, mais des fois, ça peut suffire. Et en fait, ça se dégonflait en permanence. Donc, j'ai démonté le pneu, j'ai changé la chambre, etc. Et finalement, je suis reparti à 8h du matin, au lieu de 6h. Voilà. Donc déjà, je prends encore 2 heures de retard entre la veille et... le retard s'accumulait. Et puis, je me suis dit, bon, est-ce que je pourrais les rattraper quand même pour rouler avec eux? Est-ce que j'en ai derrière? Ils étaient un petit peu loin, ceux qui étaient derrière. A priori, ceux qui ont dormi à l'hôtel étaient partis très tôt. Ils étaient partis autour de 3-4 heures du matin. Et je me suis dit, je vais les rattraper eux un peu plus loin, le temps qu'ils fassent leur pause à la boulangerie, etc. Et en fait, sur la carte, je me rendais compte qu'ils avançaient mais super vite. Je me suis dit, mais attends, pour un gars qui veut l'abandonner, ça avance vite quand même. Et en fait, j'apprendrai à toute la fin, en fait, parce qu'Anselme me l'a raconté, je l'ai vu à Deauville, que, en fait, Ronan, il a abandonné à la boulangerie. Il a dit, non, mais je blaguais pas, t'as pas compris, toi tu pars et moi je rentre en train. Lui, Anselme, il avançait plein pot avec les deux balises comme ça, donc ce qui fait qu'il avançait vraiment, vraiment super vite. Je vous en reparle bientôt parce que il va revenir dans l'histoire, en fait, mais je vous garde ça pour un peu plus tard. Donc, finalement, là où je pensais avoir un peu de compagnie, je me suis retrouvé à nouveau tout seul, et en fait, en me disant, il faut que j'atteigne Bernay et tout. Et je me suis dit, il reste encore 30-40 bornes pour y arriver. Et puis, les chemins étaient identiques. C'est-à-dire que moi, qui avais eu l'espoir qu'à un moment donné, Steven Ullerich nous mette des petites routes, un peu de campagne, un truc qui repose un petit peu, les chemins étaient identiques. Alors, pour vous faire courte, c'était des cailloux, de la boue, des ornières, des herbes hautes, roulées en bordure d'un chemin où il y avait de la terre un peu grasse, etc. La roue qui se coinçait, de la pluie battante par moment. Je sors la fameuse petite carte de Cyril, je fais mes calculs et je vois qu'en fait il est plus de 10h du matin, que je n'avance pas, qu'à cette allure, en fait, si j'avance à cette allure-là, je peux arriver à minuit si je ne fais aucune pause. Aucune pause en avançant à cette allure-là. En considérant que toute la route a la même difficulté et en se rappelant que Steven Ullerich avait dit que la fin était terrible. À ce moment-là, en fait, je fais mes calculs et je me dis, si jamais j'ai le temps de faire des pauses, il faudra que je mange, il faudra que je fasse pipi et tout, pause, à trouver à manger, trouver à boire. Le lendemain, je dois repartir au maximum à 10h de Deauville pour aller prendre le train à Lisieux. Parce qu'en fait, entre Deauville et Lisieux, il n'y avait pas de train dans lequel on pouvait mettre un vélo. Et a priori, il y a des travaux ou je sais pas quoi. Donc, il fallait que j'aille à Lisieux, en fait, prendre le train pour rentrer ensuite à Paris, puis rentrer ensuite en Auvergne, pour amener ma fille à l'école lundi matin à 8h25. Moi, mon truc à moi, c'est de dire, je dois absolument être le lundi matin à 8h25 pour que je veuille amener ma fille à l'école. Donc, je dois être rentré le dimanche soir. Donc, je dois être à Lisieux à 12h37. Donc, au maximum à Deauville, je dois y arriver à 10h pour avoir le temps de repartir dans l'autre sens pour arriver à Lisieux. Donc, je fais mes calculs. Je me dis, mais j'ai une marge qui devient de plus en plus faible. Elle devient super, super faible, cette marge-là. Et si jamais j'ai de la fatigue, si jamais j'ai un problème technique ou quoi que ce soit, je me suis dit, ça va devenir tout simplement infaisable. Et vraiment, ça me semblait alors, à ce moment-là, infaisable. Et je me suis dit, surtout si c'est toujours aussi galère, surtout si ça devient toujours en plus galère, forcément, je vais devoir faire des pauses, forcément, je vais devoir prendre de l'eau, forcément, en plus, je vais devoir recharger mes batteries du téléphone, ma powerbank, qui s'était un peu vidée, mon téléphone s'était un peu vidé, mais ma frontale n'était pas vide parce qu'elle a une grosse autonomie. Mais quand même, de rouler 5 heures en pleine nuit, ça l'avait quand même un peu vidé. Je me suis dit, si je dois passer encore 5 à 6 heures à rouler en pleine nuit et que ma frontale n'a pas assez de batterie, je suis pas sûr qu'elle tienne. Donc, faut que je la recharge. Donc, ma powerbank, est-ce qu'elle a encore assez de batterie? Le phare qui est sur mon vélo, c'était un peu la même chose. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va pas tenir? Donc, à un moment donné, il faudra que je recharge tout ça. Donc, ça veut dire que pour recharger tout ça, il faut au moins que je fasse une petite pause, une heure ou deux heures quelque part. Et donc, je fais ce calcul-là. Et puis, ensuite, il y a un autre truc, c'est que ça me gave, quoi. Ça me gave, ces cailloux, ce terrain, cette boue, ces grosses piscines à pleine de boue et tout, je ne prends aucun plaisir, vraiment aucun plaisir. Je regarde sur WhatsApp ce qui se passe, je vois qu'il y a beaucoup d'abandon, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont bifurqué, qui ont dit nous on a pris à tel endroit, on a pris à tel endroit, etc. Il y en a même qui disent nous on est à tel endroit, on bifurque. Je leur dis mais comment vous bifurquez? Alors ils m'ont pas répondu en disant qu'ils avaient bifurqué parce que j'aurais pu changer, bifurquer beaucoup plus tôt sur la trace route. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que oui, je vous le dis, à un moment donné, j'ai lâché, j'ai bifurqué sur la trace route. Parce qu'à ce moment-là, en fait, j'étais là-dedans en me roulant comme je pouvais. Et en fait, quand je regardais à la fois les positions GPS, à la fois quand je regardais aussi ce qu'ils disaient sur WhatsApp, la météo, comment j'avançais, etc., la trace qui n'offrait aucun repos, j'en ai marre, en fait. J'en ai vraiment marre. Et puis, en plus, alors, il y a des trucs drôles quand même, hein. C'est que, sur WhatsApp, je regarde quand même, je vois Anselme, qui a perdu ses lunettes. Et puis, un petit peu plus tard, qui perd ses chambres à air, et tout, et en disant, si jamais vous retrouvez ça, ça m'arrangerait que vous puissiez me les ramener. Alors, moi, j'en ai marre et tout, je roule, comme je peux, au plus vite que je peux, mais quand même, j'avoue, je suis tombé sur les chambres à air d'Anselme et sur ses démons de pneus. Donc, j'ai embarqué ça dans mon petit sac à dos, parce que j'ai pris un petit sac à dos en plus. J'embarque ça et en fait je me dis prochaine fois peut-être j'ai peut-être une chance que ils sont obligés de peut-être que je vais lui dire voilà je les ai retrouvés. Je me suis dit, est-ce qu'il va attendre, est-ce que je suis loin ou pas, et en fait je me rends compte qu'il était super loin et donc lui son objectif c'était quoi, c'était d'avancer. Je l'ai vu le dimanche matin, on a discuté et en fait pour tout vous dire sur la journée du samedi, il n'a fait qu'une demi-heure de pause, en fait. Une demi-heure de pause entre la boulangerie le matin. Ils avaient vérifié à quelle heure elle ouvrait à 5h du matin. Donc, entre la boulangerie autour de 6h ou 7h du matin. Et le soir, il est arrivé à minuit et demi, il n'a fait qu'une demi-heure de pause. Donc, autant vous dire qu'il a bombé. Les lunettes, il pouvait pas les trouver parce que c'était hors piste, il s'était trompé. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, je ne pouvais jamais le rattraper. Même si à un moment donné, je me suis retrouvé devant lui sur la carte. Ah, par quel mystère. Alors ça, je vais vous le raconter parce que finalement, il m'est arrivé à un moment donné, vous savez, je suis dans ce truc d'abandon, de me dire, là, j'en peux plus, ça m'amuse plus, en fait. Je suis pas venu pour ça, en fait. Je suis pas venu pour cette galère-là et tout. Pour moi, ça ressemble pas au vélo que j'apprécie, en fait. Et c'est vraiment, j'en reparlerai d'autres fois et tout, mais vraiment, ça ressemble pas à la manière dont j'aime rouler, dont j'ai appris, dont j'aimais rouler ces derniers temps. Ça me gavait, quoi. Ça me gavait. Et à ce moment-là, j'ai dit, j'y arriverai pas. De toute façon, je vais pas y arriver. Et donc, à ce moment-là, dans ma tête, ça a lâché un peu. C'est un peu comme Cyril qui, la veille, me dit, qui déjà passé décidé d'abandonner, qui quand il arrive à Évreux, il stâte et tout, etc. Qui est dans cet état en fait de se dire je continue pas. Alors quelqu'un m'avait donné un conseil, il m'a dit n'abandonne jamais, mange à bord et abandonne ensuite. Ouais, j'ai testé le truc. Je suis allé jusqu'à Bernay. À Bernay en fait, je suis arrivé à midi. Alors à midi il y avait le petit marché, j'ai bu un coup tranquillement, j'ai mangé, j'ai pris un petit sandwich, etc. Je me suis bien hop. Et je me suis dit, donc j'avais 12 heures de retard sur ce que j'avais prévu, parce que j'avais prévu de dormir à Bernay hein, au départ. Donc j'arrivais à midi, donc je me dis, j'ai pas loin de 12 heures de retard quand même sur mon plan de marche. Je prends donc quand même ce temps de boire, de manger et tout, de me dire, je fais le point, je prends mes petites cartes, mes GPS, je prends tout ça. Et je repars, bien décidé en fait à me dire, allez, je vais aller le plus loin possible pour voir comment ça se passe. Et à un moment donné, en fait, j'ai raté la trace. C'est-à-dire que la trace, elle est partie sur un côté. Alors a priori, elle part à droite. Je dis a priori parce qu'à un moment donné je l'ai croisé et en fait moi je suis sur une route, je la vois passer. Alors officiellement je la croise, mais là où je suis il y a pas de chemin sur les côtés. Un peu plus loin je vois qu'il y a un petit pont et puis après il y a l'air d'avoir des tunnels, c'est bouché sur le côté. Il y a des, vous savez, c'est des, il y a des, comment ça s'appelle, des sortes de grillages. À un moment donné je vois un chemin mais il y a une grosse barrière avec des grillages autour, donc je peux pas me rapprocher de la trace. Donc il aurait fallu que je reparte dans l'autre sens, etc. Et à ce moment-là, comme je suis déjà dans un état en me disant, voilà, je vais jamais y arriver, je galère, si en plus il faut que je reparte une demi-heure en retard, que je refasse une demi-heure, je repars encore une heure, etc. Je me suis dit, je vais jamais la récupérer. Je reprends ma fameuse petite carte que m'avait laissé Cyril, je regarde le truc et je me dis, bah, tiens, là, je vois un panneau Orbeck. Et je me dis, bah, à la trace, je peux la récupérer à Orbeck. Bon, voilà. Donc, je décide de rester sur la route et je vais jusqu'à Orbeck. Et à Orbeck, je retombe sur la trace, ce qui était logique. Bon, il y a un truc, c'est que j'ai pris à l'envers. Il y a un moment donné, je sais pas ce que j'ai fait. Moi, j'étais persuadé qu'il fallait aller plutôt dans un sens. Et puis, en fait, j'ai commencé à prendre comme ça. Et je m'arrête sur une photo. Pour l'anecdote, en fait, il y avait des super belles vaches et je voulais envoyer une photo de vache à ma fille parce que ma fille voulait voir des vaches et tout. Je lui ai dit, je t'enverrai une photo de vache. Donc, il y a des belles vaches et tout. Je discutais avec les vaches, je bois un coup. Je m'arrête à l'ombre, en plus. Et je prends des photos, j'envoie ça. Et puis, je vois un autre cycliste qui arrive, il me dit, en balade? Je dis, bah non, je dis oui, en balade, je vais à Deauville. Et je lui dis, toi, en balade? Il dit, bah, je vais à Deauville aussi. Je dis, mais t'arrives dans le sens inverse de moi? Et je lui dis, attends, moi, j'ai un problème sur ma trace ou c'est qui? Et il me dit, non, moi, je suis dans le bon sens. Et je dis, bah, bon, je suis dans le mauvais sens, alors. Donc, finalement, je repars, bah, dans le même sens que lui, dans sa roue. Mais franchement, je n'arrive pas à rouler. Je le dis, hein, vraiment, je n'avance pas, j'en ai marre, ça rebondit, il y a des caillasses partout, ça rebondit dans tous les sens. Ça me plaît pas en fait. Hein. Alors à Bernay, j'ai fait un truc, c'est que j'avais fait regonfler mes pneus, vérifier la pression chez un vélociste pour vérifier que j'avais un petit peu. Au départ, j'étais un petit peu sous-gonflé sur ma roue avant quand j'allais changer le matin, parce que ma petite ponche, j'ai pas réussi à monter en pression, donc je vais faire regonfler un petit peu, vérifier les pressions pour éviter les pincements, etc., pour éviter les problèmes. Mais donc techniquement, je me suis dit, bon, ça peut passer, hein, ça peut passer sans problème. Mais en fait, j'étais juste dans un état où je me suis dit, j'en ai marre, quoi. Ça avance pas, c'est de la caillasse partout, ça rebondit dans tous les sens. Il y a pas un moment de répit, vraiment pas un moment de répit. Quand il y a une route, ça fait 100 mètres de route et puis on repart sur un chemin qui est un peu merdique. Et puis tous les chemins sont de plus en plus merdiques. Et là, je ressors la carte, en fait, et je décide de sortir de la trace et de dire, bah, maintenant, ce que je vais faire, c'est chercher la trace route, hein, voilà, et remonter vers Lisieux et Pont-l'Évêque. Alors, si vous connaissez un peu le truc, je me suis dit, bon, là où je suis, hop, je vais remonter vers Lisieux, puis après, à Lisieux, je récupérerai Pont-l'Évêque, et à Pont-l'Évêque, c'est un point de passage de la route. Et à ce moment-là, en fait, il reste normalement 50 km à faire. Et c'est à ce moment-là, en fait, où je décide d'abandonner officiellement, d'abandonner la trace gravel, le gravelman en lui-même, et de dire, moi, toutefois, je veux aller à Deauville. Je veux voir Deauville. C'est mon objectif, je veux voir Deauville. Donc, à Lisieux, j'ai d'abord fait un arrêt à la gare pour recharger mon téléphone, ma batterie, pour faire le point, me dire, bah, tiens, où est-ce que je vais récupérer la trace? Donc, j'ai cherché un petit peu pour me dire, est-ce que je la récupère à tel endroit? Est-ce que je vais directement autour de Pont-l'Évêque? Donc en fait, je la récupère avant Pont-l'Évêque, la trace, voilà, tout simplement. J'ai pris quelques montées, mais alors des trucs vraiment, vraiment galères. J'ai vu aussi un point qui avançait vers la gare à un moment donné, en fait. Hein, à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, ça se trouve, il y a un gars qui est vers la gare. Peut-être que c'est un concurrent aussi qui passe là. Alors je me suis... ils ont vraiment été hors trace. Et en fait, j'ai appris le lendemain que c'est un concurrent qui avait décidé de finir d'aller à Deauville en train. Donc, il est allé à la gare. Mais lui, je l'ai pas vu à la gare. Donc, j'ai appris que le lendemain. Moi, je suis bien reparti en vélo. Donc, il y a des montées. Il faisait super chaud. Pour récupérer la trace, il y a un moment donné, il y avait une grande roue, donc j'ai pris une petite roue sur le côté. Il montait mes raids. Alors, il y avait des gamins qui s'entraînaient, qui faisaient la course dans la montée. Et moi, j'ai fait la course avec eux. Je les ai doublés, j'étais content. Mais quand je suis arrivé en haut de la montée, je me suis rendu compte qu'il y avait une impasse, qu'il fallait que je redescende un petit peu, que je tourne sur la droite, que je reparte, ça repassait sous la route, ça remontait, que des espèces de toboggans comme ça. Et finalement, j'arrive à Pont-l'Évêque. À Pont-l'Évêque, il y avait de la musique, il y a des bars. C'est sympa, Pont-l'Évêque, c'est touristique et tout. Je fais une petite photo, point de passage Pont-l'Évêque. Je bois un petit coup, un petit Perrier Tranche, bien frais. Je remplis les bidons dans le bar où j'étais tranquillement et puis je repars normalement 50 km à faire par la trace route. Voilà, 50 km à faire par la trace route. Je me dis quand même, hein, quand t'as fait tout ça 170 le premier jour, là j'étais déjà dans les 120-130 dans le deuxième jour, je me suis dit bon, et là dans l'autre ouais, peut-être un peu moins, je sais plus combien exactement j'avais, mais bon, j'ai calculé que dans le total ça me ferait 330, voilà, grosso modo. Donc je me suis dit bon, l'un dans l'autre, les 50 km sur la trace route, ça va le faire, surtout après toute la caillasse que t'as pris et tout, ça va le faire. Alors, deux points à ce stade-là. Premier point, c'est que je me rendrai compte que le lendemain, en fait, il y avait moyen de faire ce chemin-là en 20 km. C'est-à-dire que la trace, le Yarrick, n'est pas la trace officielle la plus courte, hein. Je le dis tout de suite. Elle n'est pas non plus la plus facile, hein. La trace, le Yarrick, hein, c'est au-dessus de la trace Simon Yarrick. Lui, il a fait monter. Alors, elle est vraiment magnifique. Elle enchaîne les montées dans des forêts magnifiques, sur lesquelles j'ai croisé des gros SUV de luxe, des bagnoles anciennes d'un rallye. J'ai vu des chevaux, j'ai vu des magnifiques golfs, j'ai vu des magnifiques maisons, j'ai vu des gens qui se baladaient dans des belles bagnoles, etc. et tout. Des fois, d'ailleurs, on les croisait pas, tellement elles étaient grosses, hein. J'ai vu des Maserati, j'ai vu des Corvette, j'ai vu des super voitures, j'ai vu tout un tas de trucs. Magnifique, vraiment magnifique. Mais au bout d'un moment, j'étais écœuré par les montées, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des montées, et puis à un moment, il y avait des belles descentes, et on se dit, ah, cette descente-là, je suis sûr qu'elle m'amène à la mer. Je suis sûr que celle-là m'amène à la mer. Et en fait, hop, il y avait une petite montée après et ça remontait super raide. 1 km, 2 km, 3 km, 4 km. Et puis un petit virage, j'aime bien un truc comme ça. Hein, tout. Oh là 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 là. Et puis la journée défile comme ça et tout. Et c'est la fin de la journée et je me demande en fait à quel moment je vais vraiment enfin voir la mer, l'océan et tout. Et je me suis dit, est-ce que je vais y arriver à y être pour le coucher du soleil quand même? Alors au début, j'étais super confiant. C'est-à-dire qu'au début, quand je pars de Pont-l'Évêque, genre 17h, je me suis dit, ouais, allez, être au coucher de soleil à 20h et quelques, easy quoi. 50 bornes, pour faire 3h30, 50 bornes, ça va le faire tranquille. Ça me semble facile, hein? Puis je me suis dit, forcément, quand on arrive au bord de la mer, la côte, elle doit être plate. Alors, moi, je connais pas Deauville. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'à Deauville, en fait, il y a plein de petites communes, il y a plein de falaises et tout, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend et tout. Et en fait, je pense qu'à part dans Deauville, il n'y a pas de plat. À part dans Deauville, la plage de Deauville et dans la ville de Deauville, le reste n'est jamais plat. Donc ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. À chaque fois j'étais en haut d'une montée, monsieur, c'est la dernière, et puis ça descendait, je me dis ouais c'est cool, et puis faut que je vois, ça remontait à chaque fois. J'enchaîne les côtes, alors j'ai discuté avec quelqu'un le lendemain qui m'a dit, nous on a eu le même truc, et on en a eu marre, on en a vraiment, vraiment, vraiment eu marre et tout, on a coupé parce qu'on avait marre, parce qu'on était hors délai, etc. aussi. Et donc finalement, je suis arrivé dans Deauville autour de 20h. Voilà, autour de 20h. Et dans les rues, là, je me suis mis à bomber pour arriver. Mon but, c'était d'arriver sur la fameuse plage. Alors, 20h un peu passé d'ailleurs. C'était, vous savez, la plage avec les planches, là, les grandes planches, avec les petits cabanons, les petits abris de plage, les noms des acteurs du cinéma américain, etc., qui sont là et tout. Et là, je suis arrivé, je voyais le soleil se coucher. Je bombe, je dis, pourvu que le soleil soit encore là, pourvu que le soleil soit encore là, pourvu que le soleil. Et j'arrive, et là, c'était magnifique. Un coucher de soleil merveilleux, le ciel rouge. Il y avait beaucoup de monde sur la plage, des chevaux qui galopaient dans l'eau, qui galopaient sur la plage, des gens qui faisaient des photos, des touristes. Un gars qui est venu me voir, il m'a dit, vous venez d'où comme ça en vélo? Je dis, ben, de Paris. Il m'a dit, ah, Paris-Deauville, c'est cool, j'ai fait il y a quelques années. Je lui dis, oui, mais vous êtes passé par où? Vous avez fait combien? Il m'a dit, 250 et quelques, hein. Je dis, ah, bah, moi, j'en ai fait 100 de plus. Il m'a dit, ah bon? Bah, c'est bizarre comme chemin. Bah, non, vous inquiétez pas. C'est le jeu. C'était le jeu de Simon Yarrick et tout. Et c'est comme ça le défi Gravelman. Et donc là, j'arrive sur cette plage-là, je me déchausse. Alors franchement, mes pieds, ils sont tout fripés avec la boue de la veille, d'avoir mariné dans des godasses comme ça toute la journée. Je vous garantis pas l'odeur. C'est-à-dire que j'ai pris un sac, je les ai enfermés le plus possible. quelqu'un comme ça en me disant, elle, je veux pas les ressortir. Et, mais quand même, à ce moment-là, j'ai un éclair, en fait. Je me dis, maintenant, tu vas profiter au maximum. Et donc, je vais courir dans le sable, je vais danser dans le sable, je fais des photos, je saute, je mets les pieds dans l'eau, etc. Je suis à Deauville, hein. Je n'ai pas réussi le Gravelman, mais je vis alors le meilleur moment du week-end. Le moment que j'étais venu chercher, hein. Être là, les pieds dans l'eau. Les vraiment, être à voir ce spectacle des chevaux, j'ai fait des photos. Alors, d'ailleurs, sur le truc assez drôle, c'est que sur le pour dire qu'on était passé, il fallait faire des photos sur Instagram et on pouvait mettre sur le groupe WhatsApp. Et sur le groupe WhatsApp, j'ai mis celle-là, coucher de soleil. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé ensuite un peu plus tard au camping, on m'a dit ah c'est toi la photo du coucher de soleil. Je dis oui. Et le lendemain, quelqu'un m'a dit ah punaise, elle dit t'as eu de la chance la photo du coucher de soleil. Je dis ouais, je suis sûr que tu m'as maudit. Ouais, exactement. Oui, j'étais bien maudit. On aurait bien aimé y être nous aussi, mais nous, on était perdus là dans la fameuse route, les fameuses routes qui montaient, qui descendaient, parce que eux, ils sont arrivés genre minuit et demi dans le truc, hein, voilà. Mais moi, j'ai profité de ça, et en fait, je pense que c'est vraiment le truc qui me dit que mon week-end était réussi. Ça et ce qui s'est passé le dimanche matin, c'est-à-dire que le dimanche matin, je suis retourné sur la plage, quoi, sur la plage au lever du soleil, me faire un café avant de repartir. Ça, je vous en parle pas parce que c'est un peu hors Gravelman, mais si vous avez un peu des questions là-dessus, je pourrais vous y répondre. Mais vraiment, ce que j'ai compris ce samedi soir quand je suis arrivé là sur les planches à Deauville, que j'ai vu ce spectacle et tout, c'est que je me suis dit, ben écoute, t'as quand même fait 330 bornes pour y arriver. Et ça, c'est cool. Il y a 7 mois, j'ai débuté le vélo. Il y a 8 mois, j'ai pas de vélo. Donc voilà, tout simplement, j'ai débuté le vélo, je vous rappelle, fin janvier. Le vélo, c'était un cadeau de Noël que vous m'avez fait les uns les autres et tout. Je vous en remercie. J'ai débuté le vélo comme ça. J'ai commencé par rouler 20 km, 30 km, 40, 50, etc. J'ai fait le Gravelman Auvergne 120, qui était la première fois que je passais les 100 km. J'ai fait mon voyage à vélo cet été. J'ai fait plein de choses comme ça et tout. Mais je n'ai pas aimé ce Gravelman. En fait, je ne l'ai pas terminé comme voulu et je ne l'ai pas aimé ce Gravelman. Je suis quand même arrivé à Deauville. J'ai fait mes 330 km. On peut rajouter un petit peu en petite marge, etc. Mais en fait, j'ai compris que finalement, dans toute cette grande aventure depuis des mois, mon plus grand plaisir avait été de rouler la découverte d'une nouvelle liberté. J'en ai parlé de ça et il y en a qui l'ont su, qui l'ont discuté. J'ai eu des messages privés sur Instagram pendant tout l'été qui m'ont dit « Ah, t'as été piqué par le bikepacking, t'as eu ça, je pense que t'as vécu ça ». Et oui, effectivement, en fait, je n'ai pas aimé ce Gravelman. Et je vais le dire très clairement, hein, en fait, hein, ce que j'ai aimé, c'est préparer le Gravelman. Voilà, préparer Gravelman. C'est-à-dire que mes sorties variées, mes sorties au lever du soleil, mes sorties au coucher du soleil, en Auvergne, etc. Mon grand voyage de cet été, mes 9 jours de vélo, là, mes 1400 bornes, etc. Je n'aurais jamais fait ça si je n'avais pas eu en tête de faire le Gravelman. C'est-à-dire que au moment où je découvre Steven Liarik, l'aventure et tout, j'ai envie de faire le Gravelman. Je découvre son univers, j'ai envie de participer à cette aventure-là. J'ai découvert ce que c'était, j'ai vu ce que c'était. L'objectif Gravelman m'a amené au vélo. Mais en fait, maintenant, pour l'avoir vécu, que ce soit le Gravelman Auvergne et que ce soit ce Paris-Deauville, je vous le dis très clairement, cet objectif-là, Gravelman, ne me fait plus rêver du tout. Je n'ai plus envie de le faire. Et je peux même vous le dire très clairement, je ne me réinscrirai pas à un Gravelman, en tout cas en trace Gravel. Je me garde l'option un jour de faire une trace route, mais une trace Gravel, je veux pas. Voilà, tout simplement. J'ai décidé que ce ne serait pas le cas. Là-dessus, je pourrais répondre à vos questions, mais l'une des raisons, c'est que le type de terrain, le type de comment c'est fait et tout, pour moi, en fait, c'est pas vraiment, en fait, la conception telle que j'ai envie. Mais en fait, je comprends la démarche de Steven Liarik. Le soir, en discutant, j'écoutais ses récits, ce qu'il racontait, ses aventures et tout. Et oui, il est dans cette aventure-là, il est dans ce monde, il a construit ça de cette manière-là, etc. Mais moi, en fait, ce jeu à lui, c'est pas un jeu qui me plaît tant que ça, en fait. C'est-à-dire que moi, le jeu qui me plaît, c'est le jeu que j'ai vécu sur faire des sorties plus courtes. C'est le jeu que j'ai vécu cet été en faisant du bikepacking, en ayant des sorties dans lesquelles j'ai pris le temps de m'arrêter pour boire un coup, de presque faire un peu de, alors j'ai pas dire du tourisme, mais de visiter, de discuter avec des gens, de prendre plus de temps, etc. D'avoir des chemins plus faciles à gérer, d'avoir des chemins plus gravel que VTT, en fait, très clairement, parce que là, c'était vraiment des chemins, en plus, alors, bien sûr, avec la boue, la gadoue, etc., ça a empiré. C'est pas, sur terrain sec, ça aurait été beaucoup plus simple, je pense, sur certains terrains qui auraient été secs, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de la boue, on aurait eu un terrain sec, on aurait pu probablement plus rouler, peut-être aller plus vite, peut-être avoir moins de fatigue. Bon, ça, la boue, la pluie n'a pas fait pousser les caillasses, hein, vraiment, très clairement. Mais en tout cas, ce format-là ne me fait plus rêver, et c'est pour ça, je le dis très clairement, que je n'y retournerai pas dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je n'ai pas réussi ce gravelman-là que je retournerai absolument faire un autre gravelman. Donc, ce que je dis, en fait, c'est que j'ai échoué, et je l'ai dit sur Instagram, j'ai fait un reel sur ce sujet, j'ai échoué à boucler le gravelman tel que je l'avais prévu, c'est-à-dire faire la trace gravel complète, les 351 km, mais je suis quand même arrivé à Deauville. Je suis quand même arrivé à Deauville, en partant de Paris, sur mon vélo, avec mes jambes, quelque chose qui semblait totalement impossible, et j'ai vécu à la fois ce coucher de soleil magnifique sur la plage de Deauville, et le lendemain matin, d'aller courir sur la plage, de me faire un café, au lever du soleil et tout, avant de repartir et tout, j'ai vécu ça. J'ai vécu ce truc-là, et ça, en fait, c'est ça mon plaisir. Ce que je dois retirer de cette aventure, finalement, c'est ces moments-là. C'est vraiment ces moments-là. Alors, bien sûr, de tout ça, je vous en reparlerai dans les prochains épisodes du podcast. Parce que d'une part, il y en a certains qui vont me poser la question. Le podcast ne va pas s'arrêter. Le podcast ne va pas s'arrêter, mais il y aura quelques changements. En attendant, on va finir de faire des bilans. J'ai envie de faire un bilan, notamment de mon voyage bikepacking de cet été, parce que je l'ai pas fait. Je vous ferai aussi un bilan de ce que j'ai appris sur ce pour préparer ce gravelman. Et je voudrais aussi faire un bilan sous forme de FAQ avec vos foires aux questions. Donc, par exemple, vous pouvez me poser des questions sur Instagram @BertrandSoulier, et puis sur Spotify, vous savez que dans les commentaires, si vous écoutez cet épisode sur Spotify, vous pouvez mettre un commentaire sous l'épisode, vous pouvez me poser des questions. Je répondrai à toutes les questions dans une FAQ, un épisode FAQ dans lequel je pourrai répondre à toutes vos questions. Donc allez-y, hein, toutes les questions que vous avez, n'hésitez pas à les poser. Je répondrai à tout ça, et puis ça sera le sujet d'un prochain épisode. En attendant, vous avez compris, vous avez vécu avec moi, j'ai revécu ce gravelman. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai mis ma casquette, ma guêpette gravelman sur la tête, hein, bien vissée et tout comme ça, pour vous parler de ça. Voilà, c'était une sacrée aventure. Le défi gravelman en lui-même se termine, il est terminé pour moi. Une autre aventure commence d'une autre manière, en tout cas sur le podcast, etc. Je vous en parlerai de tout ça, mais en attendant, on va finir de faire ces bilans-là. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à venir discuter avec moi de tout ça sur mon compte Instagram @BertrandSoulier, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.